Je vous emmène avec moi, en van, sur les routes d'Europe de l'Est, à la découverte de l'ailleurs, de nouvelles saveurs et des personnes croisées en chemin. Les livres m'ont toujours nourrie et inspirée, et c'est bien pour cela que je ne m'imaginais tout simplement pas partir sans eux. À la façon d'une boussole, j'emporte dans mon sac à dos les livres d'auteurs et d'autrices originaires des pays parcourus, comme pour m'aider dans ma quête. Si ça vous tente qu'on fasse la route ensemble, alors laissez-vous emporter par les jours nomades. Voyageuses et voyageurs des ondes, cet épisode débute à Annecy et se terminera dans les Dolomites, en Italie. Bonne écoute. Chapitre 1. Des lacs, des montagnes et due caffè per favore. Le premier livre sur la pile à lire, c'est « Les huit montagnes » de Paolo Cognetti. J'ai enregistré il y a quelque temps Agathe et Anne-Lise de La Belle Image qui vont vous dire quelques mots au sujet des huit montagnes.
Je vais parler. Il y a un moment, je te jure, ça me bloque.
Mais t'es parfaite en plus.
C'est dingue, il y a un moment où je ne trouve plus les mots de savoir qu'il y a un micro.
Mais Louise, elle fait du montage et tout après, donc on va avoir une fluidité à la Combinif. Hein, c'est... Pour l'Italie du Nord, Les huit montagnes de Paolo Cognetti, on y suit un jeune enfant, Pietro, qui vient de la ville. Il arrive dans le Val d'Aoste pour ses vacances. Il va se lier d'amitié avec un jeune de son âge qui vit sur ses terres et donc qui vit complètement différemment. Et peu le temps passe et 20 ans plus tard, il veut se réconcilier avec son histoire passée, retrouver les traces de ses vacances. Et donc c'est une fresque romanesque autour de ces personnages. Le prix Médicis étranger 2017. Très bon millésime.
Et donc c'est vraiment une histoire d'amitié et de... J'allais dire de nature, mais en fait c'est marrant parce que en fait c'est un terme qui veut tout et rien dire, nature. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est pointé du doigt par Bruno, qui est un enfant qui travaille justement dans les alpages. Cet enfant devenu grand dira dans le livre à un moment donné, la nature c'est bien un terme de citadin. Nous ici on parle de montagne, on parle de prés, on parle de bois, on parle de forêt, de choses concrètes qui nous servent très concrètement, mais on ne parle pas de nature. Donc voilà, mon propre, on va dire, passé de citadine me rattrape. Mais tout ça pour dire que c'est une hymne à l'amitié en fait, ce roman.
C'est vrai que le livre a été adapté en film et le film est très très réussi. Le film est essentiellement autour de l'amitié entre ces deux adolescents et adultes. Alors que moi, j'y ai vu plutôt l'histoire de la famille, du fils entre son père et sa mère, la tension qui règne dans ce couple et le secret de famille qu'il va découvrir.
Il y a ce mystère-là du père, le père de cet enfant qui est complètement fasciné par les sommets, par l'altitude.
Et il y a un truc que j'adore dans ce roman, je crois que je te l'ai dit la dernière fois, c'est qu'en fait, le fils, le père et la mère, ils adorent tous les trois la montagne, le secret de famille est autour de la montagne, mais ils aiment à chacun une autre altitude. Et en fait, l'altitude qu'ils préfèrent les décrit assez bien. Ça, je trouve ça...
Ah ouais, c'est génial comme idée.
Ouais. On se rend compte que la mère du personnage principal, elle est plutôt de l'altitude des 1000-1500 mètres. Elle s'arrête aux forêts, elle adore les plantes sauvages, ce genre de choses. Le fils, il s'arrête à 2000 mètres parce qu'en fait, il a le mal des montagnes. Donc, il ne peut pas aller au-dessus et il le fait pour faire plaisir à son père. Mais on sent que ça lui demande un effort infini. Et par contre, le père, lui, tout ce qu'il veut, c'est toujours les sommets, c'est toujours aller plus haut et que ça ne vous inspire pas une chanson. Nous sommes actuellement dans le col du Petit Saint-Bernard où Nathan conduit comme un chef. C'est le col qui nous mènera vers l'Italie. Et moi, j'avoue que je sers à rien. J'ai globalement le vertige, les mains moites et je sens plus mes jambes. C'est impressionnant la hauteur, l'altitude. Dans le livre, ils ont tous une altitude et en fait, c'est chouette de pouvoir me dire « Ah ben là, on est dans l'altitude du fils, du personnage principal. » Donc, c'est-à-dire les alpages, le début des neiges éternelles, mais pas encore les sommets rocheux. Donc là, on est vraiment pile là-dedans. J'ai appris dans les 8 montagnes que la neige en altitude, elle pouvait être vieille de 15 ans. Je pensais juste que c'était une neige de l'hiver dernier. Je pensais vraiment pas que les neiges éternelles s'appelaient éternelles parce que... pour cette raison. Et on se fait doubler par des cyclistes, des motos. Il y a un petit cours d'eau, un petit ruisseau qui descend du long de la montagne. Il y a des randonneurs, il y a des gens qui dorment ici. C'est joli, c'est vraiment magnifique. Il y a une forme d'énorme mélancolie qui se dégage de ce texte. Et ça projette la mélancolie du père, en fait, qui travaille dans une usine à Milan. Donc lui, on se rend compte qu'en fait, il a 2 semaines de vacances, il les passe en montagne, il doit profiter à fond avant de retourner s'esquinter à l'usine à Milan. Et en fait, c'est toujours un déchirement, la fin de ses vacances. Et je sais pas si vous avez déjà ressenti le spleen du dimanche soir ou ce genre de choses, mais dans ma famille, c'était quelque chose de quand même assez prégnant. Ça a fait écho en moi à des souvenirs d'enfance, ce côté-là. En fait, c'est amusant parce que la lumière du van s'est éteinte quand je parlais. Mon studio d'enregistrement n'est pas encore très au point. Je suis dans le noir, c'est super, je vois plus mes notes. Bon, attendez, j'ouvre la porte et je la ferme. Peut-être que ça va marcher. Ça a marché. Donc, qu'est-ce que je voulais dire après ce petit interlude technique ? J'ai commencé la lecture de ce livre au tout début de notre voyage avec mon copain. Et on a commencé le voyage en allant en fait dans le Doubs, à la frontière du Jura, et puis en allant ensuite à Annecy. Ces deux endroits, on ne les a pas choisis au hasard. En fait, mon copain avait un chalet familial à Métabier. Chalet qui n'appartient plus à sa famille, mais il a énormément de souvenirs dans cette petite ville. Et moi, Annecy, c'est un lieu dans lequel on passait beaucoup de moments avec ma famille, surtout l'été. Tout ça pour dire qu'on est allé dans des endroits de souvenirs, des endroits qui n'étaient pas du tout neutres, ni pour lui, ni pour moi. Et ce livre, Les 8 montagnes, il est ancré dans cette forme de mélancolie, dans cette forme de souvenir d'un lieu qu'on a aimé en étant enfant et pendant les vacances d'été. Pour l'instant, j'en suis là de ma lecture. Il doit me rester une petite 60aine de pages. Évidemment, on nous parle des Dolomites. Donc, prochaine étape, je pense, les Dolomites. On nous parle aussi d'une spécialité culinaire. Je ne sais plus la page, puisque je n'avais pas de post-it. Mais en tout cas, je vais peut-être tenter de la goûter pour voir ce que ça donne en vrai. Et voilà, en tout cas pour ce soir, ça me semble bien. On vient de faire un petit stop pour s'arrêter manger. On a passé la statue du Saint-Bernard. Je sais pas qui est ce monsieur. Et on est devant un hospice un peu glauque. Il est vraiment en briques grises. C'est écrit hospice. Et ça donne pas envie d'être soigné ici. Par contre, il fait frais. On sort de chaleur caniculaire où on mourait de chaud. À 35-40 degrés. Et là, l'air est de nouveau respirable. C'est très agréable. 1-2-1-2, ceci est un test parce que j'ai eu pas mal de galères avec la carte SD qui n'était pas reconnue par le micro Zoom. Ça fait partie du voyage aussi. Mais heureusement, petite pub pour Radio Primitive qui me fait le plaisir et l'honneur d'héberger ce podcast, j'ai pu avoir Tom au téléphone qui m'a aidé à rétablir à restaurer le problème. Donc j'ai fait plein de tests différents et je pense que ça marche. Ça a l'air d'aller. Je suis terriblement déçue. Malheureusement, il y a toute une partie où je parlais du col du Petit Saint-Bernard qui a été supprimé, en tout cas qui ne fonctionnait pas à l'écoute de l'enregistrement. Mais je reprends le micro juste pour vous expliquer que l'hospice dont je parlais précédemment et que je trouvais assez glauque, en fait, on s'y est arrêté pour boire un café et manger une des meilleures crêpes au Nutella de toute ma vie. Et c'était un endroit exceptionnellement accueillant, avec des gens qui avaient le sourire, qui étaient passionnés de ce qu'ils disaient, de ce qu'ils faisaient. Et surtout, l'hospice, c'était un endroit dédié aux voyageurs qui parcouraient ce qu'on appelle la route romaine, avec des marchandises, il y avait des pèlerins, etc. Et ces gens-là, souvent, ils étaient agressés par des bandits au détour du chemin, quand ils arrivaient au col, pour qu'on leur prenne toutes leurs marchandises. Et en fait, pour éviter ça, ils étaient accueillis dans l'hospice, un hospice qui était tenu par un vieux monsieur avec une barbe, avec une canne. Il n'a pas l'air très accueillant quand on le voit sur les photos, mais en fait, c'était un monsieur avec un grand cœur et il accueillait ces voyageurs-là dans l'hospice. Il leur offrait le gîte, le couvert. Les personnes les plus pauvres étaient autorisées à rester jusqu'à deux nuits et à ne pas payer. Et pour compenser, les personnes aisées payaient leur nuit un peu plus cher pour permettre de créer cet équilibre-là. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Ce lieu vraiment à la frontière de la France et de l'Italie représentait énormément. C'est pour ça que je suis très déçue que ça n'ait pas enregistré. On est au bord du lac Majeur. On peut entendre les personnes parler italien. Il y a trois retraités italiens dans l'eau, là, en face de nous. Est-ce que c'est pas ça le kiff, finalement, pour eux, de juste profiter de leur retraite au soleil au lac Majeur? Et moi, je termine le livre Les huit montagnes. Il me reste, j'ai 20 pages. Et j'ai fait exprès d'attendre un peu pour le finir en Italie et être dans l'ambiance du livre. C'est magnifique. J'étais pas forcément convaincue par la ville.
On est dans quelle ville ?
On est à Arona. Et au début, je trouvais ça vraiment pas beau en arrivant. Mais là, c'est vraiment joli. C'est paisible. Et on est un peu hors saison, on va dire, avant que les touristes arrivent. Donc c'est assez agréable. On est sur un petit bord du lac Majeur. On a dû croiser deux touristes un peu comme nous. On se reconnaît entre nous. Et sinon, c'est tout. Voilà, je vais terminer ma lecture et puis on verra pour la suite. Je ne sais pas si on m'entendra bien, mais je voulais faire un petit point sur le voyage, sur l'itinérance et ce que ça fait que de vivre en van depuis deux semaines maintenant. Là, on est à Sulzano, dans un petit café. Il y a vraiment du bruit. Je ne sais pas si ça s'entendra. Donc là, il fait très très chaud et je pense que c'est une des plus grosses difficultés là pendant le voyage. C'est comment aérer le van, comment faire en sorte que ce soit vivable et qu'on réussisse malgré tout à dormir et à récupérer de la fatigue de la journée. Sinon, il a fallu quelques semaines pour s'habituer au fait de dormir dans un van, à l'itinérance aussi. Le soir, on se couche et on se demande où on sera le lendemain, donc on cherche tout de suite un endroit où dormir le lendemain. Donc ça fait malgré tout beaucoup de mouvements. Et sinon, sur le fait de vivre dans un si petit espace, je trouve que c'est assez agréable finalement. Sauf que j'arrête pas de perdre mes affaires. Je sais pas comment je fais. Ça fait 12 fois que je perds mes lunettes de soleil, mes lunettes de vue, que je cherche mon livre, une carte SD. Voilà, donc là, on est encore dans le petit village dont je parlais précédemment dans le café, qui est le village de Sulzano. Et on s'est baladé, enfin, il fait encore très chaud, mais on est monté tout en haut du village pour avoir un point de vue. Et je voulais reprendre le micro pour reparler du bar, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas bien décrit l'ambiance. Les bars étaient tenus par une femme, je dirais d'une quarantaine d'années. Et elle avait sa petite fille à côté d'elle dans le bar. C'est trop mignon, la petite fille, elle m'a fait penser à ma nièce Suzy, parce qu'elle avait des lunettes de soleil à paillettes, une petite queue de cheval, et ça se voyait qu'elle était trop contente d'aider sa maman. Et il y avait un groupe d'Italiens, de vieux monsieur italiens, mais vraiment vieillards. Ils étaient assez misogynes en réalité. On a eu toute une discussion avec Nathan sur la misogynie de façon générale. Parce que vraiment, depuis le début, globalement, ça ne les dérange pas que je sois accompagnée, quoi. Et ça n'arrête pas et c'est assez particulier. Mais ça nous a permis, en marchant là, d'avoir toute une discussion sur comment ça se perpétue et quelles sont les répercussions. Et c'était intéressant. Mais oui, c'est sûr que c'est une réalité à ne pas ignorer non plus, quoi. Surtout si vous êtes une femme et que vous voyagez seule. Voilà. C'est à savoir. Petit point d'étape parce qu'on est à Desenzano dans un café qui s'appelle Rugheri et on hésite sur l'itinéraire puisqu'on est à un moment un peu crucial. Soit on choisit d'avancer et d'aller à Vérone, soit on décide de monter dans les Dolomites, ce qui impliquerait de faire quelque chose comme 3 heures de route supplémentaire, mais en même temps, dans les 8 montagnes, ils parlent des Dolomites, ça se passe dans les Dolomites. Ça serait quand même dommage de passer à côté. Et puis surtout, c'est des paysages qu'on aime bien. Et il y a moyen de faire des belles randonnées aussi, donc ça serait super. Mais c'est vrai qu'on commence aussi à sentir la fatigue, je pense, du voyage, de façon générale. Pour mettre le contexte, hier, on s'est lavé les cheveux pour la première fois depuis, je pense, plus d'une semaine dans le lavabo d'un toilette de plage. C'est aussi ça, la réalité du voyage. Finalement, on n'a pas réussi à choisir entre Vérone et les Dolomites. Donc, on va faire les deux. Si je chuchote un peu, c'est parce que on est au cœur de la bibliothèque qui s'appelle la Capitolare, la plus ancienne bibliothèque de Vérone. La bibliothèque, elle abrite à l'heure actuelle 90 000 livres anciens, évidemment. Dans ces 90 000 livres, il y a aussi des incunables. Alors, les incunables, je ne saurais pas parfaitement dire, mais il me semble qu'ils datent du 14e siècle. Désolée pour les historiens ou les historiennes qui pourraient m'écouter et s'arracher les cheveux, c'est à vérifier, mais c'est soit 14e, soit 15e siècle. En tout cas, c'est assez impressionnant quand on rentre à l'intérieur de cette bibliothèque, on se retrouve dans une immense salle avec plusieurs rangées boisées de livres anciens. Il y a un côté très religieux presque, qui se dégage de l'endroit. On est juste à côté de la cathédrale de Vérone. Il y a d'ailleurs un énorme Christ crucifié au milieu de cette salle-là dont je vous parle. Et toutes ces rangées de livres plus ou moins détériorées. En fait, il y a eu un bombardement le 4 janvier 1945 des Américains dans Vérone. Et ça a détruit pas mal de monuments, notamment, évidemment, des livres anciens. Mais tout ça pour dire que c'est quand même assez émouvant parce qu'il y a pas mal de ces livres qui ont été très détériorés, qui sont exposés quand même, et d'autres qui sont là pour faire mémoire. Nous sommes arrivés hier dans les Dolomites. On est super contents parce que c'est une étape qu'on voulait faire depuis longtemps. Et là, on dort à Carezza al Lago, juste à côté donc, du lac de Carezza. Et c'est un lac d'une couleur bleu turquoise magnifique. Allez voir des photos sur internet si vous voulez. Nous, on va aller le voir demain parce qu'on est juste passé devant avec le van hier, mais on n'a pas eu le temps de vraiment s'attarder puisque aujourd'hui, on voulait faire une randonnée. Je vous disais que j'attendais d'être en Italie pour terminer le livre, donc là, je l'ai terminé depuis quelques temps déjà, mais pendant ma randonnée dans les Dolomites, il y a plein de moments où on marchait simplement, on ne se parlait pas. Et ça m'a vraiment permis de repenser au roman et aux différents moments qui m'avaient marqué. Il y a plein de moments où je faisais des croisements inconscients entre le livre et la réalité de ce que j'étais en train de vivre. Par exemple, on a vu plein de drapeaux népalais. Les drapeaux népalais ont une grande place dans le cœur de Pietro, qui adore le Népal et qui a passé des longs moments là-bas. Et en fait, quand il rentre du Népal la première fois, il installe un drapeau népalais juste devant son habitation dans la montagne de Grana. Bruno lui demande à quoi ça sert et ce que ça signifie. Et il lui explique en fait que c'est des drapeaux de prière qui portent chance. Et Bruno lui dit « Mais t'es croyant, enfin, tu crois à ce que tu te dis ?» Et il dit « Non, mais ça me met de bonne humeur, donc c'est déjà pas mal. » En parlant de prière pour se porter chance, peut-être qu'on aurait dû en faire quelques-unes, puisque on s'est perdu. Je vous la fais courte. On décide de prendre un chemin de randonnée en suivant les balises rouges et blanches. Donc à partir de là, il n'y a pas trop de mystère. Et puis vient un choix. Soit on coupe un peu plus court, ça nous fait arriver plus tôt, mais il y a un peu plus de dénivelé. Soit on rallonge le chemin, ça dure plus longtemps. Et en effet, on nous parle d'un petit dénivelé, quelque chose de relativement abordable. Donc on se regarde et on se dit qu'on y va. La randonnée se passe très bien, on croise des chiens de prairie, des bouquetins, on passe un passage très escarpé, moi j'ai le vertige. Et alors là, c'est le moment prévention, parce qu'on se retrouve à faire une partie de Via Ferrata, sauf qu'on n'a pas de casque. J'en parle très sérieusement parce que surtout, ne faites pas ça, ne faites pas comme nous, c'est vraiment pas bien ce qu'on a fait. On se retrouve à faire ce petit passage-là, et puis on arrive à un refuge. Et on se dit, on prend le temps du café, on regarde ce qu'il nous reste à faire au niveau de l'itinéraire. Quelle ne fut pas notre surprise en nous rendant compte qu'il restait en réalité 7 heures de marche pour retourner au télésiège de départ. Et là, c'est le drame. Il est déjà 16 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on dort dans un refuge? J'avais pas pris mon micro, mais je regrette un peu parce qu'il s'est passé un truc incroyable juste après. J'entends parler français et je m'approche et je vois deux personnes. Une femme, un homme, avec des casques, des cordages, des chaussures, des escalades. Ils me disent « Ah, mais vous êtes français !» Je dis « Oui, mais on est surtout perdus !» Et ensuite, à partir de là, j'apprends que le monsieur vit dans la région depuis 1997, qu'il est en réalité guide de haute montagne, et qu'on a pris un sentier de randonnée qui était en réalité un sentier qui prend en réalité 2 à 3 jours à être parcouru. Donc, à partir de là, le monsieur me regarde, il me dit « Mais vous avez fait la Via Ferrata sans cordage, mais vous êtes dingue !» Et on se retrouve dans son pick-up et il nous ramène à la ville la plus proche pour qu'on puisse ensuite reprendre un premier bus, un deuxième bus. On était très loin de notre van. Ce monsieur-là qui était guide de haute montagne, il était aussi secouriste à ses heures perdues, ancien journaliste, passionné d'histoire, de littérature. C'était génial d'échanger avec lui. Et quand je lui ai parlé de mon petit challenge, il m'a recommandé 2 lectures, donc je vais vous en parler. Il m'a donc recommandé le livre « Eva d'or » de Francesca Melandri et puis le livre « Le diable des Dolomites » de Tita Piaz. Il m'a dit que c'était super pour en apprendre plus sur l'Italie du Nord. Il m'a parlé de Stefan Zweig aussi, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de le lire. Notamment Le Jour d'échecs, apparemment c'est super. Je lui ai demandé s'il fallait savoir jouer aux échecs pour le lire et il m'a dit que non. Mais en fait, je sais que c'est fou de dire ça, mais si on s'était pas perdu, on les aurait jamais rencontrés, on n'aurait jamais parlé avec eux. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de lire le livre. Et je dirais juste une chose, c'est dans le souvenir que se trouve le plus beau des refuges. Voilà, je vous laisse avec ça et puis vous verrez en le lisant à quoi ça fait écho.
So far, you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky.
Puis il y a quand même quelque chose que j'ai pas dit de l'Italie, c'est que j'adore l'italien. Honnêtement, je pensais pas tomber en amour de la langue à ce point-là. Moi, j'ai fait espagnol LV2, j'ai aucune notion d'italien, mais je trouve ça magnifique. Ça m'a vraiment donné envie de l'apprendre. Et Nathan en rigole pas mal parce que dès que j'ai l'occasion d'apprendre un nouveau mot ou de parler italien, de dire bonjour, au revoir, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, tout ce que vous voulez, je le dis. J'ai appris à dire évidemment ciao, grazie, grazie mille, due caffè per favore, perfetto. J'aime bien dire au revoir, ça se dit arrivederci. Et puis, très important, l'eau plate et l'eau pétillante, acqua naturale, acqua frizzante. Je trouve que c'est tellement beau. Et puis, il y a quelque chose que je connaissais, mais je ne sais pas comment je le connaissais, c'est ciao ragazzi. Ça veut dire salut les gars. On pensait que personne le disait, mais en fait, les gens le disent assez régulièrement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de finir cet épisode, en vous disant « Ciao ragazzi ». Si tu as aimé faire partie du voyage le temps de cet épisode, alors n'hésite pas à retrouver les jours nomades sur radioprimitive.fr. C'était Louise pour les jours nomades.
C'est vraiment un très beau livre. Et puis, il y a un secret qui arrive que tu ne
perçois pas.
Ouais.